VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 19h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 juillet 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, l'ONU a nommé 3 experts pour enquêter sur les violences au Kasaï. La Chambre des représentants a adopté hier un projet pour des sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Kiabadou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en garde la République démocratique du Congo et la région contre le fait que la situation pourrait dégénérer si l'accord politique conclu il y a presque 7 mois n'était pas respecté. En vertu de cet accord conclu le 31 décembre 2016, des élections doivent être organisées cette année dans ce pays riche en minerais, dont ce serait la première transition démocratique. Mais les craintes que l'accord ne reste lettre morte se multiplient après l'annonce par le chef de la commission électorale plus tôt ce mois-ci que le scrutin n'aurait probablement pas lieu cette année. Un hélicoptère de la mission des Nations Unies au Mali s'est écrasé accidentellement mercredi dans le nord du pays, d'après un responsable de la MINUSMA à Gao, sans donner de bilan. Selon ce responsable onusien, rien ne permet à ce stade de dire que l'appareil a été abattu ou qu'il a été victime de tir. Les Nations Unies ont nommé 3 experts internationaux pour enquêter sur les violences dans la région du Kasaï, en RDC. Abdourahmane Dia.
Cette annonce intervient au terme d'un compromis avec Kinshasa qui a refusé une mission indépendante. L'équipe est composée d'un Sénégalais, d'un Canadien et d'une Mauritanienne. Ils vont enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme dans la région du Kasaï. Le Conseil des droits de l'homme a adopté le 22 juin une résolution de compromis avec l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Ces 3 entités souhaitaient une mission indépendante, mais Kinshasa, qui s'y opposait, avait obtenu le soutien des pays africains. La résolution demande à la RDC de coopérer avec les experts qui devront en retour partager leurs informations avec Kinshasa et les auteurs des crimes dans le Kasaï seront jugés par la justice congolaise. Depuis 10 mois, la région du Kasaï est secouée par des troubles qui ont fait plus de 3000 morts et 1 400 000 déplacés, d'après des chiffres rassemblés par l'Église catholique congolaise.
RDC toujours, les Nations Unies ont annoncé la reddition d'un chef rebelle, Cheikh Thabo Ntaberi, poursuivi pour crimes contre l'humanité et viol massif avec sa milice en 2010 dans l'est du pays ravagé par les affrontements. Selon Fabienne Pompé, porte-parole de la MONUSCO, Cheikh s'est rendu en sachant qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt national pour crimes contre l'humanité émis contre lui par les autorités congolaises en janvier 2011. Le Congo a répondu à la France sur la situation dans la région du Pool. Paris s'est déclaré lundi préoccupé par la situation dans la région du Pool, lançant un appel aux autorités de Brazzaville pour rétablir rapidement les conditions qui permettront la tenue des élections dans toutes les circonscriptions concernées. Le gouvernement a été responsable et prudent en reportant les élections dans le Pool, a répondu Thierry Mongala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le parti présidentiel a remporté au premier tour des élections locales et législatives du 16 juillet dernier. 2 gendarmes camerounais ont été tués ce mercredi dans une attaque perpétrée dans l'extrême nord du Cameroun par des djihadistes nigérians de Boko Haram. L'attaque s'est déroulée à Sangmé, une localité de l'extrême nord située à 20 km de Fotokol, ville frontalière du Nigeria. La région de l'est de l'extrême nord du Cameroun est confrontée à de fréquentes attaques, dont des attentats suicides attribués au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. 5 hommes, dont 3 militaires, ont été arrêtés dans le cadre de l'attaque de l'école de police d'Abidjan perpétrée la semaine dernière, 2 jours avant l'ouverture des Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé la police. 2 nouveaux casques bleus marocains ont été tués mardi à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, a indiqué mardi dans la soirée l'ONU, 2 jours après la mort d'un autre soldat de la paix également marocain. Nous y reviendrons dans la partie magazine de ce journal. Au Zimbabwe, les nouveaux pouvoirs judiciaires du président suscitent une levée de boucliers. Ce texte donne à Robert Mugabe la possibilité de nommer les principaux juges sans consultation. L'opposition dénonce une violation de la Constitution. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Un projet de loi adopté hier permet au chef de l'État de nommer le président de la Cour suprême et son adjoint. Une attaque contre l'État de droit s'insurge le MDC, principal parti d'opposition. Il estime que cette loi va concentrer les pouvoirs dans les mains du président, alors que les citoyens ont voté pour démocratiser le régime. Il s'agit de la première modification de la Constitution qui prévoyait que le président zimbabwéen nomme les juges suprêmes sur recommandation d'une commission. La ZANU-PF, parti du président Mugabe, peut s'appuyer sur sa large majorité au Parlement pour faire passer des lois. 182 députés sur 270 ont ainsi voté en faveur de ce changement constitutionnel.
Pékin a lancé mercredi un avertissement au Botswana qui prévoit d'accueillir le mois prochain le Dalai Lama, bête noire du régime communiste, et exhorter le pays à respecter les intérêts fondamentaux de la Chine. Le chef religieux tibétain qui vit en exil en Inde doit s'exprimer à Gaborone, la capitale botswanaise, lors d'une conférence spirituelle prévue du 17 au 19 août. Londres a assoupli ses recommandations aux touristes voyageant en Tunisie, mettant fin à sa consigne d'annuler tout voyage non essentiel à Tunis et dans les principaux sites touristiques. Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a déclaré que son homologue de Tripoli, Fayez al-Sarraj, lui avait demandé l'aide de navires pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Cette requête des autorités de Tripoli est à l'examen du ministère de la Défense et les options seront examinées avec les autorités libyennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier un projet de sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ce qui a provoqué la colère de Moscou et l'inquiétude des Européens. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le projet comporte des sanctions contre la Russie pour l'annexion de la Crimée et des ingérences en Ukraine. La proposition des sanctions concerne aussi l'Iran, notamment les gardiens de la révolution, accusés de soutenir le terrorisme, et la Corée du Nord pour ses tirs de missiles. La proposition de loi doit être adoptée par le Sénat et validée par le président Donald Trump avant que les sanctions ne soient effectives. Si ce texte passe au Sénat, le président Donald Trump pourrait aussi mettre son veto. Malgré tout, le ministre adjoint aux affaires étrangères iranien, Abbas Agarashi, estime que cela peut influencer négativement l'application de l'accord sur le nucléaire. À Moscou, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov met en garde contre une possible destruction des perspectives de normalisation des relations avec la Russie. De Paris à Berlin, en passant par Bruxelles, l'initiative de la Chambre des représentants passe très mal.
Plus de 10 000 personnes évacuées dans le Var, de nouveaux départs de feu dans le département voisin, les incendies qui ont détruit plus de 7 000 hectares dans le sud-est de la France et en Corse continuaient ce mercredi leur chemin dévastateur. Les secouristes luttaient pour le troisième jour consécutif contre le feu. Au total, 4 000 hommes sont déployés, appuyés par 19 bombardiers d'eau. Deux diplomates pakistanais enlevés en Afghanistan le mois dernier ont été retrouvés sains et saufs après une opération des forces de sécurité afghanes, mercredi, a annoncé à Istanbul le ministère des Affaires étrangères. Israël a répliqué sèchement mercredi à des déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan sur les mesures de sécurité à l'esplanade des mosquées, affirmant ne pas avoir à recevoir des leçons de la Turquie. Monsieur Erdogan a jugé bonne, mais pas suffisante, la décision d'Israël d'enlever les détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. En Inde, les corps des 17 membres d'une même famille ont été retrouvés lors du reflux des eaux qui ont inondé leur village dans l'état de Gujarat, où les pluies torrentielles de la mousson ont fait plus de 100 morts, autant pour moi, et entraîné l'évacuation de plus de 36 000 personnes. Détritus, branches d'arbres ou cordes, tout était bon pour dresser des barricades dans Caracas, en partie paralysée mercredi au premier jour d'une grève générale de 48 heures contre l'élection dimanche d'une assemblée constituante voulue par le président socialiste Nicolas Maduro. Le même jour, les États-Unis annonçaient des sanctions contre 13 actuels et anciens hauts responsables gouvernementaux vénézuéliens. De nombreuses rues étaient bloquées, principalement dans le sud-est de la capitale vénézuélienne, bastion traditionnel de l'opposition. Un mois après l'avoir interpellé sur Twitter, Rihanna a été reçue plus d'une heure aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron. Une rencontre absolument incroyable selon la star, venue lui demander de financer le Partenariat mondial pour l'éducation, un fonds humain dont elle est l'ambassadrice. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
C'est désormais officiel, un port va exister à Kribi au Cameroun. Bolloré, le transporteur CMA et le groupe chinois de BTP viennent de signer avec l'État camerounais les contrats de concession du terminal à conteneurs du port aux eaux profondes de Kribi. L'exploitation leur a été attribuée pour 25 ans en août 2015. Une bonne nouvelle pour les habitants de Kita, situés entre Kaï et Bamako. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Ouleseini Maïga, a signé samedi dernier à Paris un accord de financement pour la réalisation d'une centrale solaire pour un coût total de plus de 50 milliards de francs CFA. Ce projet constitue un nouveau coup d'accélérateur au programme d'urgence sociale. Les entreprises chinoises présentes en Côte d'Ivoire ont désormais une chambre de commerce pour favoriser les échanges et les contrats avec les organismes ivoiriens et renforcer la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par les Jeux de la francophonie à Abidjan.
Au stade, Félix Houphouët-Boigny, médaille d'argent pour la malienne Kenneth Traoré au concours féminin de lancer du javelot avec un jet à 49,85 m. Sa compatriote Jenny Boudante remporte le 400 m en 52 secondes et 23 centièmes. La Burkinabé Marthe Koala remporte le concours du saut en longueur avec un saut à 6,52 m devant la Camerounaise Marlene Gongoa avec un saut à 6,34 m. Le décathlon chez les hommes se poursuit en ce moment. Et puis, ce sont les quarts de finale du tournoi féminin de basketball. Les Maliennes éliminées par les Québécoises, 60 à 80. À suivre Guinée, Wallonie et Sénégal, Côte d'Ivoire. En football, les Sénégalais en tête de leur groupe après leur nette victoire 3-0 contre le Gabon. En judo, l'Ivoirienne Zuleha Abzeda Dabon en finale des moins de 57 kilos. Sa compatriote Fatim Fofana est aussi dans le dernier carré chez les moins de 70 kilos, tout comme la Burkinabé Aguiratou Kabore. Le Camerounais Frank Bell Nginjel se hisse en demi-finale des moins de 80 kilos chez les hommes.
Transfert en football.
Le Stade Rennais a officialisé l'arrivée d'Ismaïla Sarr en provenance de Metz. À 19 ans, l'attaquant international sénégalais a signé un contrat de 4 ans en faveur des Rouges et Noirs. On parle d'un transfert de 17 millions d'euros hors bonus. Quant au vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, il a indiqué n'avoir conclu aucun accord, ni avec le Real Madrid, ni avec aucun club. En ce qui concerne le transfert de Kylian Mbappé, c'est l'autre feuilleton de l'été avec Neymar. Il souhaite prolonger le contrat de Mbappé.
Coup dur en tennis pour Djokovic.
Novak Djokovic a annoncé à Belgrade qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une blessure persistante à un coude. Dans une déclaration diffusée sur son compte Facebook, le tennisman a expliqué avoir pris cette décision de ne plus jouer aucune compétition ni aucun tournoi jusqu'à la fin de cette saison 2017. Âgé de 30 ans, Djokovic, numéro 4 mondial, ne participera donc pas à l'US Open à la fin de l'été ni à la demi-finale de Coupe Davis contre la France. Ce sera mi-septembre.
Merci Nicolas.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour, et on commence par le Tchad, où le léger remaniement hier s'est traduit par le départ du ministre de la fonction publique de l'emploi chargé du dialogue social, Abdelkerim Seyd Bosch, qui a été remplacé par Mahamat Adef. Sous M. Bosch, l'intersyndicale avait quitté la table des négociations, estimant que ses préoccupations ne sont pas prises en compte. Timothée Denamaï a joint à N'Djamena Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
Le Premier ministre avec son président ont décidé de changer leur ministre. On ne connaît pas pourquoi, mais pour nous, le ministre de la fonction publique, M. Bosch, est comme tous les autres ministres au Tchad. Il n'a aucun pouvoir. Il est parti. Un autre qui viendra, ça sera la même chose. On pense que pour nous, il n'y a pas d'impact là. Qu'il parte ou qu'il reste, c'est la même chose.
Quelle est la cause de votre départ?
Bon, la cause de notre départ, c'est parce que le gouvernement n'a pas tenu compte de notre avis en tant que partenaire social, en conclave dans le dialogue social. Et pendant que nous sommes en conclave, le gouvernement, le versement des salaires par rapport aux effets financiers sur les avancements des fonctionnaires et également sur les frais de transport qui devaient être payés pour les travailleurs. Ça ne devait pas se faire comme ça. Pendant qu'on dialogue, il faut respecter l'autre. Et il fallait plutôt nous informer et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Quels sont les principaux problèmes sociaux de l'heure au Tchad?
Nous avons ce problème des travailleurs qui ont été victimes d'amputation d'une grande partie de leur salaire, de leur indemnité, et de ce que je viens de dire également. Et il y a un problème, effectivement, où toutes les administrations ne marchent presque pas parce qu'il n'y a pas d'argent, ou plutôt que l'argent a été orienté ailleurs par les principaux acteurs, le Premier ministre et le Président de la République. Alors donc, lorsqu'il n'y a pas d'argent, les administrations ne marchent pas, l'économie est bloquée. Alors tout cela fait qu'on sent qu'il y a un arrêt total du fonctionnement du Tchad.
Le gouvernement dit qu'il manque de ressources du fait de la chute des prix du pétrole brut. Qu'en dites-vous?
Non, mais ça, c'est des raisons qu'ils veulent trouver. La chute du pétrole, ça, c'est général. Il y a beaucoup d'autres pays aussi qui ont la même situation. Mais et les autres recettes, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi le gouvernement n'organise pas que les autres recettes rentrent bien? Il ne veut pas. Alors là, je pense bien que ce n'est pas ça, seulement. C'est vrai qu'il y a une réduction des puits de pétrole, mais il y a d'autres puits qui ont été trouvés, et donc il y a assez d'argent qui devait venir.
Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, joint en Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Centrafrique, deux nouveaux soldats marocains de la MINUSCA ont été tués hier à Bangassou, dans le sud-est du pays. C'est après une embuscade tendue par les groupes d'autodéfense assimilés aux milices anti-Baraka. Un autre casque bleu marocain a été tué deux jours plus tôt dans la ville. Félix Yepassi Zembro a recueilli la réaction du député de Bangassou, Fidèle Abouka.
La réalité est que ce conflit qui tend à perdurer, on essaie de le faire glisser sous l'étiquette d'un conflit interconfessionnel, alors qu'il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que les centrafricains, aussi bien chrétiens que musulmans, qui ont fui Bangassou, qui sont maintenant de l'autre côté du fleuve, qui se battent pas entre eux. Aussi bien même à Boba, ceux qui ont traversé, qui sont ensemble, qui participent ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans, mais il y a une mainmise entre ces gens qui tendent à faire montrer qu'il y a un problème intérieur. Quand je dis que c'est une instrumentalisation de la vie.
Qui sont exactement ces groupes d'autodéfense? On dit qu'il s'agit des anti-Balaka. Est-ce que c'est exact, cette information?
Quand on dit anti-Balaka, c'est un terme générique. Centrafricains, un groupe de centrafricains prennent les armes pour une cause, pour une raison, on les appelle anti-Balaka. Mais eux-mêmes, ils se disent autodéfense. Ils disent qu'il y a une certaine force que l'État ne peut plus contrôler.
Mais qu'en est-il des éléments de l'UPC d'Ali Daras qui sévissent aussi actuellement dans la région?
Vous avez raison. C'est que le problème de Gatou est parti, c'est l'autodéfense. Mais quand vous sautez en amont et que vous allez vers Zélio, vers Mboki, là-bas, c'est l'UPC. Dans la basse coteau, c'est le chef. Le cas de la basse coteau, c'est effectivement ce qu'on appelle des gens qui se reconnaissent comme les anti-Salaka, qui sont en train d'occuper contre l'UPC qui s'est affiché et qui règne en fait. Un seul exemple. Petite île qui s'appelle Congo à Alitao. Le chef du groupe qui s'appelle Azou et son fils ont refusé d'aller à leur rassemblement. Ils les ont exécutés publiquement à Congo avant-hier.
Comment vit la population du Mbomo à l'heure actuelle?
En majorité, ils ont tous traversé. Ou bien ils sont dans la brousse, ou bien ils sont de l'autre côté du feu. Parce que le contingent marocain qui est là-bas, eux, quand ils passent, ils tirent. Ils font des sommations inutiles. Et à chaque fois, la population est apeurée. Ce qui fait que maintenant, les gens préfèrent être le plus loin possible.
Fidèle Abouka, député de Bangassou.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Huitième jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, les artistes maliens sont entrés dans la compétition avec musique et marionnettes. Les Maliens n'auront toutefois pas de médaille en compte dans les disciplines culturelles. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les jeunes artistes maliens sont à Abidjan pour participer au 8e jeu de la francophonie, venus pour remporter des médailles. La compagnie Nama, dirigée par Yakuba Magasuba, est dans la compétition avec ses marionnettes géantes.
On veut montrer la population l'amitié, on se donne les mains. L'Afrique est dispersée. Vraiment, nous, on veut, le monde même est dispersé. On veut que tout le monde se donne, blanc, noir, on donne les mains pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on a dit l'amitié. L'amitié, c'est tout le monde.
Sur la scène, les défenseurs de la culture malienne à ces jeux de la francophonie ont montré des valeurs de la société malienne. Boukari Omotimbe, comédien.
Moi, ça commence par les ethnies d'abord, les Dogons, après les Dogons, il y a les Senufo, après Senufo, les Bambara et les Sorey. Donc toutes ces ethnies, malgré leurs différences, se trouvent autour d'une même table. Les liens qui existent entre ces ethnies, voulu garder ces liens-là, c'est l'une des valeurs fortes même pour la cohésion sociale au Mali.
Salif Berthe, l'oiseau conteur, était sur la scène au palais de la culture pour la compétition dans la discipline conte et conteur. Son spectacle a porté sur la vérité.
Ce thème parce que je me suis rendu compte que la vérité, c'est la seule chose qui peut changer ce monde.
Pour le moment, le Mali n'a eu aucune médaille dans les disciplines culturelles. Au même moment, le Sénégal, qui a connu un début difficile, se redresse. Alioune Diop, opérateur culturel sénégalais.
On était un peu dessus au tout début, puisque d'entrée de jeu, pour la jonglerie avec le ballon, la création numérique et le développement durable, on a été aussitôt éliminé. Au moment où je vous parle, on savoure notre première médaille. C'est la première médaille du Sénégal, une médaille de bronze obtenue par Mohamed Bogar Sarr pour le concours de nouvelles. Et pourquoi c'est une joie immense? Dans l'histoire des jeux de la francophonie, concernant la création artistique, c'est la première fois que le Sénégal gagne une médaille. On garde espoir pour la danse en attendant les résultats de demain.
Les artistes plasticiens maliens sont toujours dans l'attente de leurs œuvres, qui sont partout, sauf là où elles devraient être. Il s'agit de Mariam Ibrahim Maïga, artiste peintre, Moussa Kalapo, artiste photographe, et Eli Di Apilou Koudjou, sculpteur et installation. Et personne n'arrive à dire où sont passées les œuvres de ces jeunes talents maliens, alors que les œuvres ont été expédiées par DHL sur Abidjan depuis le 18 mai 2017. Abidjan, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, la CEDEAO et son objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad veulent faire baisser de moitié le taux de fécondité le plus élevé au monde. Pourquoi un tel projet? Quels enjeux économiques et sociaux? À l'horizon 2050, un continent en majorité composé de jeunes, quel avenir pour eux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Ici aux États-Unis, les personnes âgées sont en rapide augmentation, une croissance qui touche aussi les résidents venus de l'étranger. Dans des villes comme New York, les immigrés plus âgés seront majoritaires en 2020 et les services culturels ont du mal à suivre. Anastasie Tudiesh.
Au centre Desi pour personnes âgées, les Bangladeshis du troisième âge peuvent faire des rencontres, prier, manger halal et faire du sport 3 fois par semaine. Les Bangladeshis font partie de la vague la plus récente d'immigration aux États-Unis et pour eux, la langue peut être une barrière, en particulier pour les plus âgés. Jahan Araramin est originaire du Bangladesh.
À mon arrivée ici, je ne connaissais pas un mot d'anglais, même maintenant. Je vais me coucher en me demandant comment je vais bien pouvoir communiquer le lendemain.
Christian González Rivera est chercheur au Centre pour un avenir urbain. Pour lui, l'isolement est le lot commun des personnes âgées migrantes, en particulier si les services culturels et leur langue d'origine sont rares.
On rencontre souvent des personnes âgées qui se sentent isolées parce que leurs petits-enfants ne parlent pas leur langue. Ils se retrouvent plongés dans une culture éloignée de la leur. Et leur rôle d'aîné ici, aux États-Unis, est différent de celui qu'il était dans leur pays d'origine.
La Maison Inde est une association laïque. Elle gère le foyer de personnes âgées et propose des programmes de lutte contre l'isolement sous toutes ses formes. Les doyens vivent en famille et une bonne partie n'a droit ni à la sécurité sociale ni aux allocations fédérales. Dilafrose Nargis Ahmed est directeur du Centre DESI.
Nos compatriotes sont plus conservateurs, religieux et très familles, alors ils veulent être en famille. Mais c'est très difficile de vivre avec la famille de nos jours parce que leurs enfants qui les ont amenés au foyer sont eux-mêmes sous le seuil de pauvreté.
Mais l'isolement social est aussi chose commune parmi ceux qui sont là depuis fort longtemps, comme les chats, arrivés d'Inde il y a 25 ans et maintenant citoyens américains. Pour Bharat Shah, participer aux cours donnés au foyer, puis enseigner, ont aidé à lui donner confiance.
Il faut se développer, apprendre à parler, à bien se comporter, les occuper, trouver ce qui marche et comment les divertir. Ça vous donne l'occasion de montrer votre talent aux autres.
Les Shah ajoutent que pour rester heureux, il faut être en bonne santé et rester occupé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tour universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
That lately there ain't no escaping, that I've been waking up alone. Just me and the TV and a sinking feeling that you ain't ever coming home. But today the tears ain't gonna hit the floor, 'cause a boat's in the bay and it's calling my name. So I'm headed on out the door, 'cause the sun's too bright, the sky's too blue, beer's too cold to be thinking about. Heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day. When I turned the ignition, I knew I'd been missing the feel of the wind on my face. I was stuck in a habit of wondering what happened, too busy taking all the blame. But a dream or two is a foolproof remedy. It's a beautiful world with a beautiful girl, kind of making eyes of me. 'Cause the sun's too bright, the sky's too blue, beer's too cold to be thinking about. You're gonna take this heartbreak and tuck it away, save it for a rainy day. Yeah, the music's too good, my friends are all out, and they're all too high to be bringing them down. If they ask about you, I got nothing to say, I'll say.
Kenny et Chesney, Save It for Rainy Day, une sélection de Michel Joseph qui assurait la production du Monde Aujourd'hui. Rob McLean était à la console. Présentation John Linden. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Juste derrière moi, RM Show avec Roger Montou. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.